la trahison de leur promesse. Ils la lui mettent entre les fesses. Le fin du fin pour leur boutique, c'est la renommée médiatique. De leur bouche d'or pointe éructant, leur langue de bois cousue de fil blanc, pour nous déverser un wagon de lieux communs comme des étrons.
Entouré de ses portes coton, le grand Mamamouchi nous fourre. Le grand Mamamouchi nous fourre à nous faire exploser l'oignon.
J'entends déjà le réquisitoire contre ma chanson dégueuloire. Mais la chanson n'est pas finite, faut récurer le fond de la marmite.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
Chers auditeurs de l'émission Pas de quartier sur Radio Libertaire 89.4 FM, émission du groupe Louise Michel, bonjour. Aujourd'hui nous avons François. François, bonjour.
Bonjour.
Samuel.
Bonjour.
Et surtout notre invité Marc Bélissa. Marc, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, Marc, cette émission, nous voudrions que les auditeurs qui nous suivent régulièrement, et surtout ceux qui sont dans les Antilles françaises, nous écoutent, parce que ça va les intéresser.
J'espère.
Oui, ça va les passionner même, parce qu'on te reçoit pour ton troisième livre publié à la Fabrique, La Révolution française et les colonies. Et on va parler des deux empires coloniaux français. Parce qu'on a tendance à parler de l'empire colonial en pensant à l'Algérie, la colonisation qui a commencé en 1830. Mais on oublie que le premier empire colonial, c'est d'abord autour des Antilles françaises.
Absolument.
Voilà. Bien. Donc, alors, tu vas te présenter, Marc, s'il te plaît, à nos auditeurs.
Oui, alors, donc, je m'appelle Marc Bélissa, je suis un très jeune retraité et très heureux de l'être. J'enseignais à Nantes, capitale de la traite négrière,
hein, oui.
Et à Nanterre, j'ai été pendant 20 ans maître de conférence habilité à Nanterre, et donc j'ai pris ma retraite il y a quelques années, et j'en profite pour écrire des livres et continuer la recherche. Je travaille sur la Révolution française depuis fort longtemps, notamment avec mon comparse et ami Yannick Bosque, avec lequel on a écrit deux ouvrages à la Fabrique, l'un sur le Directoire, qui s'appelle le Directoire ou la République sans la démocratie. J'ai plus la date en tête, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Vous vérifierez. Et puis on a écrit la suite, d'une certaine manière, Le Consulat, qui s'appelle, dont le sous-titre est La Fabrique de l'État et la société propriétaire, pour parler donc de cette période du consulat de Bonaparte. Et cette fois-ci, Yannick Bosque m'a lâchement abandonné, et j'ai donc dû écrire ce livre tout seul. Non, je plaisante. Et il avait d'autres projets et d'autres bouquins à faire sous la main, mais voilà, on travaille toujours ensemble. Depuis, ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années, on travaille avec Florence Gauthier aussi, dont les travaux sur la question coloniale, sur la question de l'esclavage, sur la question du mouvement anticolonialiste et anti-esclavagiste ont fait date. De même que les travaux d'Yves Bénaud à la fin des années 80, de même que les travaux d'autres historiens français.
On les trouve dans toutes les notices bibliographiques qui sont impressionnantes, vraiment. Vraiment. Alors, on va commencer par la dédicace de ton ouvrage, qui est la suivante. Pour Pierre Bélissa, mon fils, très émouvant, et en mémoire de Claudine Volikov, 1945-2023. Qui est cette Claudine ?
Claudine Volikov, c'était une grande spécialiste de la Révolution française et du champagne. Alors, c'était une grande spécialiste. Elle est morte il y a peu. Et c'était une grande amie. Voilà, une amie que j'aimais beaucoup. Elle était spécialiste de la Révolution française. On a travaillé ensemble à Nanterre. Et puis, elle a, par ailleurs, c'était une spécialiste d'histoire paysanne. Et elle a été approchée par la chambre de commerce, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des vins de Champagne. Parce que dans le cadre de la réorganisation des terroirs de Champagne, ils avaient besoin d'historiens, spécialistes de l'histoire rurale. Et il se trouve que Claudine Volikov, c'est son nom d'épouse, c'était pas son nom de jeune fille, était née dans la région de Champagne, et s'était intéressée depuis fort longtemps à cette question du vin, parce qu'il est assez capital, non seulement dans cette région, mais aussi sous l'Ancien Régime, tout simplement, puisque c'est un des produits le plus commercialisé. Et donc, elle a travaillé toutes les dernières années de sa vie comme spécialiste des vins de Champagne, du point de vue historique. Et donc, elle a fait tout un tas de travaux universitaires extrêmement importants là-dessus. Et c'est quelqu'un que j'admirais et que j'aimais beaucoup. Et voilà. Et donc, j'étais triste quand elle est décédée. Et c'est pour ça que j'ai voulu marquer ça en mettant son nom sur le livre.
Alors, on attaque.
Quant à mon fils, il a 26 ans, il s'appelle Pierre. Et c'est un mec super.
Bon, parfait. Alors, on attaque. Alors, ce qui est de génial, j'ai vraiment apprécié, et je pense que les auditeurs, surtout des Antilles, vont apprécier les cartes. Mmh. On se fait une idée tout de suite, dès qu'on a les cartes. Mmh. On sent que ça va être saignant, si je puis me permettre. Parce que tu fais un ouvrage remarquable, mais avec des pointes d'humour. Je vais y revenir. Oui, j'ai trouvé une pointe d'humour.
J'essaye.
Voilà, beaucoup de pointes d'humour, parce que c'est pas parce que c'est historique que ça doit être aride. Voilà. Alors donc, commence... Oui, voilà. Alors, on commence par les vers d'une chanson patriotique. Mm-hmm. Voilà. Donc, on en a retrouvé.
Tu vas pas me demander de les chanter.
Non, à moins que tu le souhaites.
Non,
bon, d'accord.
Je vais essayer. Mais on va entendre tout
oui,
à l'heure
voilà,
un
tout
morceau
fait.
De cette chanson.
Cette chanson, ah oui. Grâce à Jean-Mi, qui a gentiment réussi à le télécharger, à télécharger. Et surtout, on va venir sur la date du 6 février 1794, qui est l'abolition de l'esclavage sans indemnisation des anciens propriétaires. Mmh. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a eu, on oublie qu'il y a eu une première cette première abolition, et que la seconde, en 1848, elle a par contre indemnisé les anciens propriétaires.
Absolument.
Voilà.
Absolument, elle les a indemnisés assez grassement.
Mais oui, c'est un vrai scandale.
C'est d'ailleurs ce qui a, d'une certaine manière, fondé... la puissance économique d'un certain nombre d'entreprises qui existent toujours.
Qui sont même cotées au CAC 40.
Absolument, que les Martiniquais et les Guadeloupéens connaissent bien.
Voilà, donc c'est pour eux que je les incite vraiment à se procurer ton ouvrage, et surtout, s'ils n'ont pas le temps de le lire, d'écouter cette émission, ou de l'écouter en podcast sur le site du groupe Louise Michel ou de Radio Libertaire, et on ne connaît bien son avenir qu'en connaissant son passé, et ils ne comprendront que mieux les problèmes qui les accablent actuellement qu'en ayant maîtrisé tout ce qui est dit dans ton ouvrage.
Merci du compliment.
Non, mais ayant reçu suffisamment de fois Thierry Gadeau qui a parlé notamment des problèmes des Antilles et de la Guadeloupe en particulier, donc je suis au fait de ce qui s'y passe. Voilà. Alors, je remercie deux personnes qui m'ont donné ton livre à lire. Il s'agit de Laurent et de Christophe, qui sont les deux libraires de Publico. La librairie du Monde Libertaire, qui est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, qui est la librairie anarchiste, bien sûr, qu'on ne présente plus. On peut y aller par les trois métros, Oberkampf, République et Filles du Calvaire. Donc c'est les trois qui ont reçu ton ouvrage, qui l'ont lu, et qui me l'ont mis de côté en disant « Mariama, ça ne pourra que t'intéresser, et ça m'a passionné. »
Qu'ils en soient remerciés.
Voilà.
Doublement.
Voilà, tout à fait. Alors, la Convention proclame la liberté générale, donc reconnaît des droits, que les droits ont été bafoués, et en fait, il a fallu attendre 1794, très précisément, pour que cette étape soit... pourquoi ? Alors que la Révolution française commence en 1789. Tu vas nous expliquer ce...
Oui.
S'il te plaît.
Alors, évidemment, c'est un processus très long, très complexe. Mais disons que pour le simplifier, si les Français ne sont pas réveillés le 27 août 1789, le lendemain de la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, s'ils ne sont pas réveillés le lendemain en se disant « Mais bon sang, mais bien sûr, il faut libérer tous les esclaves qu'on a dans nos colonies », évidemment, ça aurait été plus simple si ça avait été comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'abord, pour une raison, c'est que en métropole, en 1789, on connaît relativement peu les colonies, on connaît relativement peu le système esclavagiste. Mmh. Hein, alors, il y avait quelques cahiers de doléances qui demandaient des améliorations du sort des nègres, comme on disait à l'époque. Hein, j'utilise le terme déjà péjoratif à l'époque, mais c'était à l'époque où on l'utilisait. Donc, d'une part, peu de gens connaissaient ce qui s'y passait, et surtout, il y avait tellement d'autres revendications antifiscales, antiseigneuriales, etc., que la question de l'esclavage et la question des colonies a été un peu noyée. Cela dit, ça ne veut pas dire que on ignorait ce qui se passait dans les colonies, en particulier dans les grandes villes, Bordeaux, Nantes, les grands ports de l'Atlantique, évidemment. Il y avait non seulement des propriétaires d'esclaves et des propriétaires de plantations dans les Antilles, mais qui ne vivaient pas dans les Antilles, qui vivaient en métropole, et qui se contentaient de toucher les revenus, évidemment. Et il y avait quand même quelques milliers de noirs ou de libres de couleur, comme on disait à l'époque, je reviendrai sur cette notion plus tard, ou des métis, comme on disait aussi également à l'époque, qui vivaient en métropole, souvent comme domestiques, souvent comme artisans. spécialisés. Il y en avait quelques milliers. Alors, ils n'étaient pas hyper visibles dans l'espace public, parce que ils étaient présents que dans certaines villes, dans certains quartiers. Mais tout de même, ils étaient là. Donc, il y avait des Français des classes populaires qui les connaissaient, qui les côtoyaient. Donc, il y avait un petit peu d'information. Et donc, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps? La première raison, c'est que la question de l'esclavage et des colonies, c'est pas simplement une question humanitaire, c'est avant tout et surtout une question économique.
Eh oui.
À l'époque, Saint-Domingue, c'est-à-dire la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire l'Haïti actuelle, est le premier producteur mondial de sucre. La moitié du sucre qui se consomme dans le monde est produit à cette époque-là à Saint-Domingue. Alors c'est un peu moins vrai pour la Guadeloupe et la Martinique, mais il y a aussi une grosse production en Martinique et en Guadeloupe. Et je crois qu'à peu près 40% du café ou 50% du café consommé dans le monde à cette époque-là viennent également des colonies françaises. Donc ça rapporte énormément aux planteurs, mais ça rapporte énormément aussi aux commerçants qui font le commerce, qui revendent ces produits, qui les revendent en France, mais qui les revendent aussi dans toute l'Europe. C'est-à-dire que le sud de Saint-Domingue, on le retrouve jusqu'à Saint-Pétersbourg à l'époque.
Tout à fait.
Parce que,
Il est de très bonne qualité.
Voilà. Et donc, tous ces gens ont des intérêts économiques. Est-ce que le statu quo social, c'est-à-dire esclavagiste, raciste et colonial, reste figé? Et donc, ces gens-là, ces propriétaires, ces marchands, ces commerçants, ces lobbyistes se réunissent en ce qu'on appelle à l'époque le parti colonial, ou le lobby colonial, pour défendre le statu quo esclavagiste, racial et économique. Et donc, alors même si ils ont des intérêts parfois un peu divergents, parce que les commerçants n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les planteurs, et parfois ils ont des intérêts qui divergent, et parfois ils sont en désaccord complet, néanmoins sur la question du statu quo, de l'esclavage, sur la question du statu quo économique, là-dessus ils se retrouvent. Et il faut bien dire que, par exemple, sous l'Assemblée constituante, mais aussi sous l'Assemblée législative, c'est-à-dire entre 1789 et fin, entre le 10 août 1792, quand la monarchie est abolie, enfin, quand le peuple de Paris, avec les fédérés marseillais, entre autres, prennent d'assaut les Tuileries, pendant ce temps-là, toutes les assemblées, que ce soit l'Assemblée constituante ou l'Assemblée législative, ne vont pas réussir à poser la question de l'esclavage, ne vont pas réussir à poser la question coloniale, tout simplement parce qu'on va les en empêcher. Et le petit groupe de ce qu'on appelle à l'époque le côté gauche, alors le côté gauche, vous savez tous, enfin j'espère, que le terme de gauche et de droite, c'est la révolution qui les a inventés, en quelque
oui.
sorte, parce que ceux qui étaient favorables à la déclaration des droits, et surtout qui voulaient l'appliquer,
surtout.
Voilà, ils étaient du côté gauche, et ceux qui ne voulaient pas au début étaient donc du côté droit. Mais le côté gauche, ils étaient relativement peu nombreux. Il y avait qui? Il y avait Grégoire, l'abbé Grégoire, Henri
Grégoire.
Tout à
fait, l'abbé Grégoire.
Il y avait Robespierre, il y en avait d'autres.
Hein. Camille Desmoulins.
Desmoulins n'était pas député à ce moment-là.
Ah oui, c'est vrai.
Il était journaliste.
Oui,
il était journaliste, mais il n'était pas député. Enfin bref, ils étaient un petit nombre. Mm-hmm. Ils ont essayé de se battre, notamment pour octroyer à ceux qu'on appelle libres de couleur, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas esclaves, mais qui étaient issus de mariages ou d'unions entre noirs, entre guillemets, ou entre présumés noirs, ou entre présumés blancs. Je reviendrai peut-être un peu après pour expliquer ce que je veux dire quand je dis présumés. Et donc, ces gens-là étaient donc libres, et théoriquement, des citoyens comme tout le monde, en théorie, sauf que, évidemment, les colons présumés blancs ne voulaient pas entendre parler d'octroyer à ces gens-là les mêmes droits qu'à eux-mêmes, puisqu'ils considéraient que le maintien de ce qu'on appelait à l'époque la barrière de couleur, ou le préjugé de couleur, était indispensable au maintien de la domination coloniale et au maintien de l'économie coloniale. Pour les blancs, remettre en cause cette barrière de couleur, c'est-à-dire donner à ces métisses les mêmes droits qu'à eux-mêmes, c'est remettre en question les colonies et les détruire. Et donc, les colons blancs se sont battus avec acharnement à l'intérieur des assemblées. Et ils ont noyauté, ils ont soudoyé des journalistes, ils ont payé des gens. Ils avaient un club qui s'appelait le club Massiac, qui était Place des Victoires. À Paris.
En Place des Victoires, c'est toujours...
C'est toujours chic, oui. Mais c'est plus le même hôtel Massiac. Et donc, voilà. Donc, la raison essentielle pour laquelle on n'a pas aboli l'esclavage en 1789, c'est d'abord parce que on n'y a pas... Enfin, beaucoup de gens n'y ont pas pensé. Et d'autre part, parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient intérêt à ce qu'on ne le fasse pas. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi le fait que il a fallu une certaine maturation politique, une espèce de radicalité politique, une prise en compte progressive du problème de l'esclavage, mais qui a été le fruit des esclaves eux-mêmes, puisque eux n'ont pas attendu qu'on leur applique la déclaration de droit. Eux, ils ont pris ce qui... Enfin, ils ont essayé de prendre ce qu'il y avait à prendre et leur liberté. Et donc, on ne peut pas dire simplement que la France a aboli l'esclavage, enfin, la Convention nationale a aboli l'esclavage parce que les esclaves se sont révoltés. C'est ce que j'essaie de montrer dans tout le livre, c'est qu'il y a des liens entre révolution coloniale et révolution française, et que les deux sont en interaction permanente. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui se passe en France parce qu'il s'est passé des choses dans les colonies et inversement.
Tout à fait.
Cette Samuel. Législation, elle date du Code noir sur la législation sur les couleurs de peau.
Sur les libres de couleur. Non, elle ne date pas du tout du Code noir parce que le Code noir de 1685, enfin, ce qu'on appelle le Code noir, c'est-à-dire l'édit de Colbert de 1685, ne parle pas du tout de la couleur de peau.
Non. L'édit de Colbert. Des biens.
Mais il y en a eu des
biens meubles et immeubles.
Voilà. Ouais. Alors, le Code noir, au point de départ, c'est un texte qui est là pour légiférer sur la question de l'esclavage, uniquement. Mmh. C'est-à-dire, le Code noir, il y a les ingénus, ceux qui sont des libres, et ceux qui sont des esclaves. Voilà. Et il n'y a rien sur la question de la couleur de la peau.
Mais il n'y a pas justement après.
Il y a d'autres. Il y a eu des additifs au Code noir, notamment dans les années 1720 et notamment dans ce qui s'appelle l'ordonnance qui concerne la Louisiane, qui n'est pas la Louisiane actuelle, mais qui est l'ensemble du territoire des Grands Lacs, qui à ce moment-là appartient à la France. Et dans ce texte de 1720, effectivement, on mentionne les couleurs et on mentionne le début d'une législation de caractère racial. Et en fait, on peut saisir le moment historique où se crée justement la pensée raciale. Non pas qu'il n'y ait pas eu de pensée raciale auparavant, mais disons que la pensée raciale...
Elle se matérialise
dans ce moment historique, qui est grosso modo entre 1680 et 1720.
Voilà.
C'est le moment où on voit apparaître, par exemple, dans les textes officiels, la mention de noir, blanc,
voilà.
ou métis, ou carteron, ou octavon, etc. Et avant, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, et ça peut peut-être nous étonner, enfin ça peut peut-être étonner certains des auditeurs, mais ce n'est pas... Le racisme qui crée l'esclavage, c'est l'esclavage qui crée le racisme.
Oui.
C'est parce qu'il y a l'esclavage qu'on a besoin d'inventer des catégories qui se superposent aux catégories simplement juridiques qui étaient le libre et l'esclave.
Et ça crée ce que vous avez appelé l'aristocratie de l'épiderme.
Ah, c'est pas moi qui ai utilisé cette expression-là. C'est un abbé, l'abbé Cournant, en 1789, qui était un des défenseurs des libres de couleur. Mm-hmm. Et c'est le titre d'un ouvrage absolument remarquable de Florence Gautier, qui s'appelle justement l'aristocratie de l'épiderme. J'ai repris ce terme, évidemment, de l'abbé Cournant et de Florence Gautier.
D'accord.
Voilà. Et effectivement, c'est l'abbé Cournant qui décrit ce système racial comme une aristocratie de l'épiderme. Et on sait qu'en 1789, ce terme d'aristocratie renvoie à tous ceux qui sont les ennemis de la Révolution.
Tout à fait.
Et tout au long du XVIIIe siècle, en effet, le gouvernement royal a été sollicité par les colons blancs pour adopter toute une série de règles, de contraintes, de règles qui placent les libres de couleur, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas esclaves, encore une fois, qui pouvaient être propriétaires, qui pouvaient être riches parfois. Hein, Julien Raymond, l'un de ceux qui se sont le plus battus en 89-91, possédait au moins 100 esclaves, c'est quelqu'un de très très riche. Mais ces gens-là subissaient des contraintes et des restrictions. Ils ne pouvaient pas exercer certains métiers, ils ne pouvaient pas porter certains vêtements, ils étaient obligés de faire le piquet devant la porte des Blancs, ils étaient obligés de se découvrir devant les Blancs, etc. etc. Donc, il y a toute une série de...
L'humiliation.
Et donc, voilà, et donc... Ça, c'est au XVIIIe siècle que ça s'est progressivement construit. Et plus le nombre de libres de couleur augmente, parce que pour des raisons évidentes, les hommes blancs dans les colonies faisaient des enfants aux femmes noires ou aux femmes métisses, pour des raisons simples, c'est qu'il y avait pas très peu de femmes blanches. Donc évidemment, il y avait des liaisons. Au départ, il y avait même des mariages.
Il n'y a pas de préservatif non plus.
Pardon ?
Il n'y a pas de préservatif.
Non plus. Non, il y a d'autres méthodes. Mais effectivement, voilà, ils faisaient des enfants. Parfois, ils libéraient ses enfants. Parfois, ils ne les libéraient pas. Ils gardaient comme dans l'esclavage, d'ailleurs.
Oui.
Ou leurs femmes. Mais à fur et à mesure que le nombre de ces libres de couleur va augmenter, on va essayer de rajouter des briques et des briques et des briques à la barrière de couleur pour la rendre encore plus infranchissable.
Et petite question, à cette époque, enfin au 18e, avant la Révolution française, il y a déjà ce qu'on appelle du marronnage dans les colonies.
Absolument. Le marronnage, de toute façon, c'est une caractéristique de toutes les sociétés coloniales dès le départ.
D'accord.
C'est-à-dire qu'évidemment, quand ils en ont la possibilité, les esclaves s'enfuient. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas systématique. On pourrait penser que tous les esclaves cherchaient à s'en aller. C'est pas systématique pour des raisons assez évidentes. C'est que parfois, la condition de marron était pire que la condition d'esclave, au sens où, quand vous étiez marron, si vous n'étiez pas dans une communauté, aller habiter dans la, dans la jungle, dans la montagne, tout seul, c'était...
C'était pas simple.
On est pourchassé par l'administration coloniale.
D'une part. Et d'autre part, il faut dire aussi une autre chose, c'est que les colons avaient intérêt à... Enfin, un certain nombre d'entre eux avaient intérêt à créer des liens familiaux, plus ou moins fictifs, entre esclaves. Et donc, marronner, ça voulait dire se rompre avec...
Ouais.
Son père, sa mère, son oncle,
voilà.
Son fils, sa fille. Et donc, voilà. Mais maintenant, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de marronnage, mais encore fallait-il que la géographie s'y prête.
Oui.
Par exemple, à Saint-Domingue, l'est de Saint-Domingue, ce sont des montagnes qui sont quasiment
infranchissables,
et donc, enfin, très peu franchissables en tout cas. Mm. Et donc, là, on a eu pas mal de marrons. Il y a eu beaucoup de marrons en Jamaïque, parce que là aussi, la géographie permettait. Mais par exemple, en Martinique, il y a eu relativement peu de marronnage parce que la géographie ne s'y prête pas.
D'accord.
Voilà.
Alors, on va revenir sur un autre terme qui est bien expliqué dans le chapitre 1, l'exclusif.
Alors, l'exclusif, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, c'est l'ensemble de la réglementation qui a été ajoutée, grosso modo, depuis la fin du XVIIe siècle et qui a continué au XVIIIe siècle et qui a même perduré au XIXe, d'ailleurs, enfin, en partie. C'est l'ensemble de la législation commerciale qui oblige donc les colonies à n'acheter, en théorie, que des produits venant de la métropole ou des produits vendus par des marchands de la métropole ou qui sont vendus, qui sont amenés par des bateaux venus de métropole. C'est-à-dire qu'en théorie, les esclaves, par exemple, puisqu'on parle de marchandises, les esclaves qui étaient amenés à Saint-Domingue, en théorie, étaient tous issus de la traite française, de bateaux français. C'est pareil pour les chapeaux, c'est pareil pour la petite métallurgie, c'est pareil pour le vin, c'est pareil pour le pain, etc. etc. Bon, tout ça, c'est de la théorie. C'est de la théorie, pourquoi? Parce que le sport national dans les Antilles, et ça, dans toutes les Antilles, françaises, anglaises, espagnoles, c'est la contrebande.
Voilà.
Et, c'est-à-dire qu'on estime à peu près, alors bon, il y a différentes estimations sur l'historien, mais on estime qu'à peu près un tiers du sucre produit à Saint-Domingue passe en contrebande. Et paye pas de taxes, donc. Et que, comme les esclaves de la traite espagnole étaient moins chers que les esclaves de la, traite française, alors pour des raisons que je ne veux pas expliquer, ce serait trop long.
Mais, elles sont bien expliquées dans le livre.
Vrai, oui.
Il faut le prendre.
Voilà, vous verrez dans le livre. L'intérêt des colons, souvent, était quand même de détourner ces interdits. D'autant que les fonctionnaires locaux
étaient grassement payés à regarder ailleurs.
Voilà, étaient souvent payés à regarder ailleurs, voire avaient même eux-mêmes des intérêts
dans les habitations, et dans les, voilà. quand ils procédaient carrément pas les habitations.
Voilà.
Alors, on dit habitation, plantation est le terme anglais, mais on dit habitation.
Alors,
et c'est ça le premier trait d'humour, cher Marc, c'est que tu parles d'une habitation, pas n'importe laquelle, en exemple, celle des Beauharnais.
Oui.
J'ai trouvé ça très drôle.
J'ai parlé de celle des Beauharnais parce que, en l'occurrence, j'ai travaillé à l'Université de Nantes avec mon collègue Éric Noël, qui est professeur en Martinique, à l'université de Fort-de-France.
Mm-hmm.
Et donc, s'il m'écoute, salut Éric. Et à l'époque, on était ensemble à l'université de Nantes.
Ouais.
Et en fait, il a fait sa thèse sur les Beauharnais.
Ah.
Et on a ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît.
Mm-hmm.
Et donc on a beaucoup travaillé ensemble et on a beaucoup échangé des documents ensemble.
D'accord.
On faisait des cours ensemble à l'université de Nantes. Et donc j'ai pris ça pas tout simplement parce que c'est Éric Noël qui me l'a qui
m'a connu.
Il a fait sa thèse sur les Beauharnais, mais évidemment ça tombait bien.
Oui.
Voilà.
Très d'humour, excellent.
Je voudrais te poser une question. l'exclusive, est-ce que ça incluait le fait que ce soit des négriers français qui aillent les acheter en Afrique, les esclaves?
Alors, en théorie, les bateaux étaient français, les armateurs, les capitaines étaient français, mais les marins qui étaient dessus n'étaient pas forcément français. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'entreprise était censée être française, et c'est pour ça que la France, à l'époque, avait les comptoirs de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, hein, qui est aujourd'hui à côté de Dakar. Mmh. Alors, c'est pas les seuls, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Il y a aussi un tas de comptoirs sur la côte orientale de Madagascar pour les esclaves qui sont destinés aux îles Mascareignes, c'est-à-dire, à l'époque, l'île Bourbon et l'île de France, mais aujourd'hui, c'est la Réunion et l'île Maurice.
C'est de l'autre côté.
Voilà, c'est de l'autre côté, sur la côte est. Alors, théoriquement, oui, c'était uniquement des entreprises, des négriers français. Et alors, au départ, c'est surtout Nantes qui a été le grand port négrier, mais progressivement, Bordeaux est devenu encore aussi un port le plus important. Et puis après, d'autres ports s'y sont mis, La Rochelle. La Rochelle, c'était même avant, Le Havre, même Marseille, à un moment donné, s'est lancé dans le commerce négrier.
Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause et on va revenir sur le fait que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été la terreur des colons. Ça, c'est savoureux. Jean-Mi, s'il te plaît.
Tu jouis, là.
Ah, complètement.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était celui du nègre, qu'à son rang parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était un de son sang. Daignez m'épargner tout le reste, daignez m'épargner tout le reste. De vrais bourreaux altérés d'or, promettant d'alléger sa chaîne, faisait pour les serrer encore des tentatives inhumaines. Mais contre leur complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples brisant leur fer ont malgré la distance des mers par s'entendre de reste. Tendez vos arcs, nègres marrons, nous portons la flamme à nos mèches, comme elle part de nos canons, que la mort vole avec vos flèches. Si des royalistes impurs, chez nous, chez vous, portent la paix, vous dans vos bois, nous dans nos murs, cernons ces ennemis obscurs et nous en détruirons le reste, et nous en détruirons. Quand dans votre sol échauffé, il leur a semblé bon de naître, la canne à sucre et le café n'ont choisi ni gérant ni maître. Cette mine est dans votre champ, nul aujourd'hui ne le conteste. Plus vous peinez en l'exploitant, plus il est juste assurément que le produit net vous en reste, que le produit net vous en reste. Américains, l'égalité, vous proclamons aujourd'hui nos frères. vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes noir, mais le bon sens repousse un préjugé funeste.
Chers éditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, nous sommes avec Marc Bédissa pour son excellentissime ouvrage « La Révolution française et les colonies ».
Non, je ne t'ai plus.
non. Aux éditions La Fabrique. Alors Marc, on va revenir sur...
Avant qu'on continue, juste une micro-remarque, Mariana, oui. Si tu permets. La chanson qu'on vient d'entendre,
oui. C'est
une chanson qui a été écrite par un ancien propriétaire d'esclaves qui s'appelait PIS, P-I-2-I-S. Et c'est une chanson qui s'appelle « La liberté des nègres », qui célèbre l'abolition de l'esclavage, donc, le 16 plus vieux en deux. Et c'est pour ça que je l'ai mis en exergue dans mon livre, parce qu'elle pose à la fois la question de l'esclavage et la question du lien colonial.
Parfait. Voilà. Merci. Alors, on va revenir sur le débat sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été la terreur pour les colons. Mmh. Le 2 mars 1790, il y a la création du comité des colonies.
Oui.
C'est quoi ce comité des colonies ?
Alors, le comité des colonies, c'est en fait l'assemblée constituante fonctionnait évidemment en séance plénière, mais ils étaient quasiment 1000, et donc, ou presque. Dès qu'il y avait une question particulière, on créait un comité parlementaire. Comme aujourd'hui, il y a des commissions. Commission de la Défense, commission... Et donc, parmi ces comités, puisque c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, il y a eu le comité colonial. Au point de départ, la question des colonies, c'était la marine qui s'en occupait, parce que c'est sous l'Ancien Régime, c'est le ministre de la Marine qui s'en occupait. Et donc, ça revenait à des spécialistes du ministère de la Marine, grosso modo. Et les colons... alors, pas tous les colons, parce que là-dessus, il y avait des divergences, mais les colons ont souhaité... qu'on souhaitait contrôler directement la politique coloniale de l'Assemblée et du ministère, mais de l'Assemblée, en créant ce comité colonial. Alors, dans un premier temps, ils ne vont pas vouloir de ce comité colonial, parce que ce qu'ils veulent avant tout, c'est que personne ne se mêle de leurs affaires.
C'est surtout
la base.
Ils sont ingouvernables, ces gens-là.
Absolument ingouvernables. Donc, il ne faut pas qu'on se mêle de leurs histoires. Ils se considèrent comme des créoles. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont américains, puisqu'ils sont nés en Amérique. Pas tous, mais c'est ce qu'ils disent. Et il n'est pas question pour qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Et donc, et surtout pas, évidemment, de leurs affaires avec leurs esclaves. Et donc, ils vont... comme j'ai dit tout à l'heure, organiser ce lobby colonial qui va faire pression sur le ministère de la Marine, qui va faire pression sur l'Assemblée et qui va soudoyer un certain nombre de députés, et qui va circonvenir, disons, politiquement un certain nombre de députés, y compris des députés membres du Club des Jacobins, puisque Barnave, qui est l'un des fondateurs du monde du Club des Jacobins, qui était considéré comme l'un des chefs des patriotes, est quasiment le porte-parole du parti colonial. Et donc, il constitue ce comité colonial en mars 90, et ils y placent quasiment que des amis et des spécialistes. Et donc, c'est ce comité colonial qui va faire des rapports à l'Assemblée constituante sur la question coloniale, bien évidemment. Et l'objectif de ces gens-là, c'est d'éviter à tout prix que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne soit appliquée aux colonies, et qu'elle soit même envoyée. Puisque l'Assemblée coloniale qui est créée à Saint-Domingue, par exemple, l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue va dicter un ordre qui est de punir de mort toute personne qui possède un exemplaire de la Déclaration des droits.
Ils fouillent les bateaux, ils fouillent les gens, etc.
Donc, il faut absolument éviter que la Déclaration des droits arrive dans les colonies. Bon, ils ne vont pas réussir, bien entendu. Alors, pourquoi c'est la terreur ? Eh bien, pourquoi cette expression, la terreur des colons ? C'est Florence Gautier qui l'a mise en avant dans son livre « L'aristocratie de l'épiderme », dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Effectivement, dans la correspondance des colons, il se pose la question. Mais comment on va faire avec... Est-ce que les nègres vont entendre que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit? Évidemment qu'ils ont entendu. Enfin, ils l'ont entendu de différentes manières, on pourrait y revenir après, mais évidemment que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça les terrorise. Pourquoi ça les terrorise? Parce que à Saint-Domingue, par exemple, je pense à Saint-Domingue, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, à Saint-Domingue, on a 500 000 esclaves pour 50 000 libres, Et sur ces 50 000 libres, on en a la moitié qui sont de couleur, mmh. et donc qui sont ségrégés racialement. Et donc, il reste à peu près aux alentours de 25 000 blancs, quelque chose comme ça, grosso modo. Ce qui veut dire que le rapport entre le rapport des forces est c'est-à-dire si les 500 000 esclaves se réveillent,
c'est clair,
c'est la boucherie.
Mais ça a été le cas.
Et ça a été en partie le cas.
Voilà.
En partie le cas.
En Martinique, tu en parles page 59, Guadeloupe page 60, la Guyane page 60, Saint-Domingue. Bon, le début de la guerre civile, c'est passionnant. Ceux qui n'ont rien compris ou qui n'ont rien compris à ce qui se passe actuellement à Haïti devraient lire ce chapitre. Mm-hmm. Ça explique tous les germes des problèmes d'Haïti sont dans ce chapitre.
Mm-hmm. Et un petit peu aussi dans le dernier,
voilà.
Où ils expliquent comment se constitue une nouvelle classe dominante à Haïti.
Comme au Libéria, où les voilà. Congos sont devenus les oppresseurs. Mm-hmm. Et les Mascareignes, page 61. Alors, le ségrégationnisme, c'est jusqu'en avril, le 4 avril 1792.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la fameuse Société des Amis des Noirs,
voilà.
qui a été créée en 1788 par Brissot, qui sera par la suite l'un des chefs de ce qu'on appelle les Girondins, Clavière, qui était un député, un exilé genevois, qui sera ministre des Finances, d'ailleurs, à un moment donné, et puis d'autres, Mirabeau, etc. C'est une société qui est fondée à l'imitation de celle qui existe déjà en Amérique du Nord et en Angleterre. Il y a eu un débat en 1787-88 en Angleterre pour savoir si on allait abolir la traite. Finalement, ça n'a pas marché.
Mais
bon, voilà. Et donc, on crée la Société des Amis des Noirs et les membres de la Société des Amis des Noirs sont des gens très très bien. Marquis Lafayette, le duc de La Rochefoucauld, c'est vraiment le haut du panier. Hein.
Ouais.
C'est pas le Volgumpekus. Il y a même de très grands propriétaires d'esclaves qui font les frères Lamette. Ils y font des passages parce qu'ils se considèrent comme des philanthropes. Voilà. Mais la Société des Amis des Noirs n'a jamais eu pour objectif, l'abolition de l'esclavage. Son programme, c'est l'abolition de la traite. Pourquoi l'abolition de la traite? Parce que la Société des Amis des Noirs est sur une ligne assez simple. Les esclaves sont tellement dégénérés par l'esclavage qu'ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes, ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. De toute façon, ils ne peuvent pas travailler eux-mêmes. Si on les libérait, ils mourraient de faim parce qu'ils sont incapables de bosser tout seuls et d'organiser quoi que ce soit. Donc il y a un très fort paternalisme aussi. Si
tout à fait.
Dire. Et donc, on ne peut arriver à transformer ces gens-là en salariés que après un processus très long. Condorcet parle de 70 ans. Hein. Donc, quand on présente Condorcet comme quelqu'un qui est pour l'abolition de l'esclavage, c'est pas faux. Mais il faut bien le dire que c'est un gradualiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense abolir l'esclavage dans un processus graduel très long qui aboutira à la transformation des esclaves en salariés.
Voilà.
Pauvres, de préférence.
Oui.
Et je reviens pour répondre au point de départ, c'est que les Amis des Noirs vont essayer de se battre dans l'Assemblée constituante et en dehors de l'Assemblée constituante, dans la presse, etc. etc. Ils vont échouer. Mmh. Ils vont échouer face au lobby colonial. Le seul truc que les Amis des Noirs... Mais ils n'existent plus déjà à ce moment-là, parce qu'en fait, la Société des Amis des Noirs, proprement dite, elle arrête son activité à la fin de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire en septembre 91. Ils se réunissent plus après. Je veux dire, ça n'a pas marché. Par contre, certains anciens membres de la Société des Amis des Noirs, dont Brissot, se font élire à l'Assemblée législative, celle qui donc prend la suite à partir d'octobre 1791, et ils réussissent à obtenir qu'un décret abolisse les restrictions à la citoyenneté des libres de couleur.
Voilà.
C'est le fameux... Alors en fait, il est voté en mars par l'Assemblée, mais on l'appelle le décret du 4 avril,
voilà.
Parce que c'est le roi l'a sanctionné le 4 avril. Mais le problème, c'est que ce décret, tout bien intentionné qu'il soit...
ne sera jamais appliqué correctement.
Il n'est pas appliqué, simplement, parce que déjà, il y a la guerre civile partout.
Tout à fait.
Donc, de toute façon, il est déjà dépassé d'une certaine manière.
Donc, Marc, tu résumes bien dans ton ouvrage en disant qu'on peut être dans le camp républicain sans cesser d'être esclavagiste ou de ne pas être forcément anti-abolitionniste.
Absolument.
Voilà. Donc ça donne une autre couleur à la Révolution française.
Absolument. On peut être républicain et esclavagiste. C'est ce que sont les soi-disant patriotes. Par exemple, les patriotes de Saint-Pierre, ce qu'on appelle les pierrotins. Ce sont des gens qui, en 1789, entendent à la fois être révolutionnaires, mais maintenir mordicus l'esclavage. Alors, c'est vrai que il a fallu quelques années pour que tout ça se décante. Mmh. C'est-à-dire pour qu'on se rende compte que c'était difficile d'être à la fois révolutionnaire et esclavagiste. On s'en est rendu compte progressivement, quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, Sontonax et Paul Verhel, qui sont les commissaires envoyés par l'Assemblée législative à Saint-Domingue pour rétablir l'ordre esclavagiste, donc ils sont chargés avec des troupes de rétablir l'ordre esclavagiste, eux-mêmes sont des anti-esclavagistes, sont membres du club des Jacobins, d'ailleurs, Sontonax et Paul Verhel. Sontonax, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable qui a déjà demandé l'abolition de l'esclavage depuis 1790-11 dans le journal Les Révolutions de Paris, qui était un journal patriote très célèbre à l'époque. Et Sontonax comprend très vite qu'il ne peut pas s'allier avec les prétendus républicains blancs. Parce que les prétendus républicains blancs, en fait, ils veulent que les Anglais viennent pour maintenir l'esclavage. Et donc, il va comprendre qu'il est obligé de s'allier avec qui ? C'est les révolutionnaires, et les révolutionnaires, ils sont noirs. Mmh. Ce sont les esclaves qui sont révoltés et qui se disent royalistes. C'est ça qui est très,
bah oui, parce que le
qui
roi
est très comique.
Au moins, le roi leur assure une protection.
Oui, ils pensaient que le roi leur assurait une protection. Et puis surtout, ils étaient royalistes parce que le roi d'Espagne,
voilà,
qui possédait l'Est de l'île d'Hispaniola, voilà, les a soutenus et les a armés. Parce que, voilà, entre-temps, évidemment,
oui,
entre-temps, évidemment, la France avait déclaré la guerre à l'Espagne. Bon,
voilà,
vous lirez tout ça dans le bouquin.
Mais oui, c'est extrêmement bien fait.
Voilà, et donc ces gens-là sont royalistes et espagnols.
Voilà, il y a la présentation des forces. Il y a les Anglais avec le roi George III, qui ont intérêt que certains royalistes ont fait venir exprès pour garder certaines îles. Donc, les îles de... Alors, attendez, rappelez-moi...
Bah, notamment la Martinique. La Martinique est occupée. Et donc, l'esclavage ne sera jamais aboli à la Martinique, parce que ce sont les Anglais qui l'occupent.
Tobago et Sainte-Lucie.
Oui, absolument.
Voilà. Les trois îles qu'ils ont données aux Anglais, tout ça pour maintenir l'esclavage.
Bah, ils ont essayé de faire la même chose en Guadeloupe, mais ça n'a pas marché.
Voilà.
Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu montres bien comment il y a une séparation des différentes questions. Donc tu dis, il y a la question coloniale, il y a la question de l'esclavage, il y a la question de la traite. Qu'il y en a, ils sont pour l'abolition de la traite, mais pas pour l'abolition de l'esclavage, par exemple. Et il faut peut-être aussi dire que si on est pour l'idée de que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça ne veut pas dire que dans les faits, un acteur de 1792 estime qu'un blanc soit l'égal d'un noir en tout point.
Absolument.
Ou que ce soit des êtres humains de même
valeur. Il y a un éventail très grand de positions.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a des gens qui estiment que la déclaration des droits, c'est très bien, mais que pour les blancs. Voilà. Et il y en a d'autres qui estiment que c'est très bien, mais que tout le monde doit être libre et égaux en droit. Et alors, il y a aussi, dès avant 1789, hein, une opinion favorable à l'idée que que les races n'existent pas. Hein. D'ailleurs, le terme race, on l'utilise pas beaucoup à l'époque. Hein, j'ai expliqué le racisme, les racistes, ça date de 1920. Même si évidemment, il y a des pensées raciales auparavant, mais qui sont différentes. Le racisme, ça a une histoire. C'est comme toute représentation sociale du monde, si on peut dire. Mm-hmm. Ça a une histoire. Donc, on n'est pas raciste entre guillemets au XVIIIe siècle comme on l'est au XXe siècle, et hélas encore au XXIe siècle pour certains.
Ouais.
Voilà.
Mais
ce que je veux dire, c'est que l'idée que les noirs seraient inférieurs aux blancs, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Hein. Tu lis Montesquieu, Montesquieu rigole avec ça, il ironise en disant mais comment ces gens-là, comment il s'amuse, il dit comment ces gens-là pourraient être des hommes comme nous, la preuve, ils sont moches, ils ont les cheveux crépus, etc. Et puis il dit ah oui, puis de toute façon, si c'était des gens comme nous, ce serait vraiment pas bien ce qu'on leur fait. Hein, ouais, je cite de mémoire, hein. Mais grosso modo, il s'amuse avec ça en disant, enfin, il s'amuse. Il utilise l'ironie, c'est-à-dire, si les Noirs sont des gens comme nous, et évidemment, ce sont des gens comme nous, alors ce qu'on leur fait, c'est un crime. Voilà. Et donc, si tu veux, faut pas s'imaginer que l'intégralité de la population française à l'époque, ou anglaise d'ailleurs, avait des préjugés de couleur. Certains en avaient sans doute, mais il y avait tout un tas de gens qui n'avaient pas de préjugés de couleur. On sait par exemple que à Paris, il y a des mariages mixtes, hein, dans les classes populaires. Quand le cordonnier ou l'ébéniste qui vient des colonies, qui est métis ou qui est noir, il se marie sans problème avec une femme du coin. Hein. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de préjugés.
Oui.
Je dis qu'il ne faut pas s'y mettre.
Il y a une complexité.
Voilà. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose de global. Le racisme a prétention scientifique, c'est-à-dire ce truc qui dit l'humanité est divisée en races. Et il y a des supérieurs, il y a des inférieurs. Tu en as les prémices chez certains naturalistes au XVIIIe siècle, Mais c'est très limité, très très limité. Parce que la quasi-totalité des scientifiques considèrent que sont des, ce qu'on appelle des monogénistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. D'accord. Et que les différences entre les hommes sont des différences de civilisation, de climat, de ce que tu veux, de... Bon, voilà. Mais que l'intelligence d'un noir n'a aucune différence avec l'intelligence d'un blanc. Voilà. Pour la plupart des scientifiques, c'est comme ça. À quel moment ça change? Ça change précisément vers les années 1800. Mm-hmm. Sous Bonaparte, d'ailleurs. C'est pas un hasard.
On va en parler de Bonaparte. Ouais.
C'est à ce moment-là qu'apparaissent des écrits racistes, proprement dit, voilà. À prétention scientifique.
Alors, on va parler de Bonaparte, justement. Oui. Tu lui consacres deux livres et un chapitre très passionnant.
Pas lui-même.
Hein. Voilà. Et même, tu dis qu'il a un tournant, il a un tournant colonial et esclavagiste, Bonaparte. Oui. Et tu expliques la genèse de ceci.
Oui.
Et surtout, tu fais tu dresses le tableau de l'expédition d'Égypte, qui est un condensé de ce que va faire Bonaparte à l'échelle du monde, mm-hmm. et qui sera sanctionné en 1815 comme étant un désastre. Colonial, de la pire espèce.
Mmh. Ça a sanctionné par qui?
Par ceux qui ont gagné la guerre.
Il a été sanctionné aussi auparavant par les armées de Dessalines en 1804, qui a renvoyé les armées de Bonaparte à leurs
chez
états,
eux. J'ose
dire. Voilà. Chez eux, quand ils ne sont pas morts sur place.
Voilà, alors, effectivement, on va présenter tout ça en ouverture, Dessalines voilà. et Bonaparte.
Alors,
après.
Alors, on a écrit avec Yannick Bosque justement un bouquin qui s'appelait Le Consulat, la fabrique de l'État et la société propriétaire. On est revenu beaucoup sur cette période qu'on appelle le consulat, donc à la suite du coup d'État du 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire de novembre 1799, hein, suite à auquel Bonaparte prend le pouvoir, et prétend terminer la Révolution, comme il le dit. Et donc, est-ce que Bonaparte est raciste? Est-ce que Bonaparte partage le préjugé de couleur? Ça a été un grand débat, notamment depuis la publication du bouquin de Ribes sur les crimes de Napoléon, etc. Bon, moi, en tant qu'historien, je suis pas un grand fan, je dois dire, de l'ouvrage de Ribes. Enfin bon, on pourrait en débattre, peu importe.
Est-ce que c'est vraiment important? Non.
Non, je pense que c'est pas déterminant.
Les faits sont têtus, comme dirait un certain président que je citerai pas. Donc, on va regarder les faits. Et ça, tu les regardes bien dans ton livre. Ouais.
Alors, en fait, Bonaparte, fondamentalement, fait un choix politique.
Voilà.
Il fait un choix politique qui est la reconstruction
de l'empire colonial.
D'un empire colonial. Parce qu'il considère que une partie des Antilles donc ont été prises par les Anglais, que le système colonial tel qu'il existe en Amérique est désormais défavorable à la France, et donc il faut conquérir soit de nouvelles colonies, soit reconstruire un système cohérent. Et c'est la raison pour laquelle Bonaparte va choisir, disons, de construire un nouveau projet colonial à partir de 1801, en s'entourant d'anciens membres du parti colonial, Villaret Joyeuse et d'autres. Et donc, il prend conseil Bonaparte. Après tout, lui-même est issu d'une île colonisée.
La Corse.
Puisque la Corse est une colonie avant 1789.
Et tu en parles très bien.
elle ne l'est plus après. Enfin, en 89, c'est une colonie. Certes, pas esclavagiste, mais c'est une colonie quand même. Donc, Bonaparte prend conseil. Il va prendre conseil à gauche et à droite. À droite, ce sont les tenants de l'ancien système esclavagiste. Et à gauche, des gens comme Grégoire, des gens comme l'amiral Truguet, des gens comme le général Lavaux, qui sont des abolitionnistes convaincus, qui sont des anti-esclavagistes convaincus, qui sont même, par certains aspects, des anticolonialistes convaincus, d'ailleurs. En tout cas pour Grégoire, qui est très critique vis-à-vis de la question du lien colonial entre une métropole et la colonie. Enfin bref, je passe, j'explique ça dans le livre. Et Bonaparte fait le choix de se tourner vers la droite et pas de se tourner vers la gauche. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ce choix? Est-ce que c'est un truc? Est-ce qu'il partage le préjugé de couleur ou pas? On peut le supposer, parce qu'il y a eu des propos de Bonaparte qui ont été rapportés par des contemporains. Même si c'est dans ses écrits propre à Bonaparte, il n'y a pas grand chose là-dessus, mais disons qu'il a, il aurait tenu des propos dans lesquels il partageait le préjugé de couleur en disant grosso modo, comment a-t-on pu, je cite de mémoire, hein, comment a-t-on pu donner la liberté aux Noirs, ils ne savent pas ce que c'est que la civilisation. Voilà grosso modo ce qu'aurait dit Napoléon, Bonaparte à l'époque. Donc c'est possible, mais à la limite, c'est pas ça qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est son projet colonialiste.
Voilà.
Et projet colonialiste qui a été anticipé, comme tu l'as dit, sous le Directoire, avec l'expédition d'Égypte. Parce que l'expédition d'Égypte de 1798, on la présente souvent comme
un beau succès, alors que c'est une vraie catastrophe.
Un beau succès, c'est une vraie catastrophe, en tout cas militaire. Oh. Ça a été une catastrophe militaire. Alors, ça a été un succès sur le plan scientifique et artistique, c'est-à-dire
oui,
que...
Oui, si on considère qu'on l'a pillé voilà. Il y a un exemple, place de la Concorde.
Voilà. Bon, disons que ça a été un succès scientifique dans la mesure où un certain nombre de savants français ont pu voir de visu et étudier de visu l'Égypte ancienne et créer ce qu'on a appelé l'égyptologie. Mais évidemment, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu une conquête militaire et pas n'importe quoi, une conquête violente, très violente. Il y a eu la révolte du Caire, il y a eu des massacres. Le général Desaix je ne sais plus comment on le prononce. Desaix a maté la haute Égypte avec une main de fer, comme dirait l'autre. Ouais. Et donc, c'est une conquête coloniale. Alors, c'est un échec, puisqu'on ne réussit pas à conquérir... Enfin, on réussit à conquérir l'Égypte, mais on ne réussit pas à la conquérir dans le temps long, puisque les Anglais
remettent la main dessus.
Et donc, ce projet de nouvelle colonisation est pensé par des gens comme Talleyrand comme une nouvelle forme de colonisation, parce que l'idée, c'est que un certain nombre de gens à l'époque du Directoire, juste avant la prise du pouvoir par Bonaparte, considèrent que les colonies esclavagistes, c'est du passé, et de toute façon, ça ne peut pas tenir. Du point de vue économique, ce n'est pas bien. C'est souvent des héritiers des économistes physiocrates qui critiquaient l'esclavage, non du point de vue humanitaire, mais du point de vue de sa rentabilité économique, comme l'a bien montré Florence Gauthier, là aussi, dans certains de ses travaux, et aussi une historienne danoise, je crois, qui s'appelle Pernille Rogg, qui a montré qu'effectivement, il y avait eu une réflexion avant la Révolution d'un certain nombre d'économistes physiocrates, non pas parce qu'ils étaient... disons que leur premier motif pour être contre l'esclavage, c'était le motif économique, parce qu'ils pensaient que c'était pas bon du point de vue économique. Voilà, et donc des gens comme Talleyrand reprennent tout ça et développent l'idée de colonies sans esclaves. C'est-à-dire, au lieu de déporter les Africains en Amérique, on va créer en Afrique...
Des salariés,
et qu'on va faire bosser. Voilà, absolument. Et donc, l'idée, c'est d'acclimater en Afrique le coton, le sucre, etc. Voilà. Alors, ils ne vont pas réussir à le faire, d'abord parce que l'expédition d'Égypte va être un bide, et puis parce que, finalement, Bonaparte va être obligé de... Alors, il va essayer, Bonaparte, de reconstruire cet empire colonial, parce qu'il récupère la Louisiane, que les Espagnols avaient pris entre-temps, je passe les détails, donc ils récupèrent la Louisiane, c'est-à-dire cet immense territoire qui va des Grands Lacs jusqu'à la Louisiane actuelle, mais comme Saint-Domingue lui échappe, puisque de Salines, Toussaint Louverture d'abord, puis de Salines ensuite,
vont renvoyer
l'expédition dirigée par le beau-frère de Bonaparte, Leclerc, elle, ou à la mort, donc, comme Saint-Domingue ne peut pas être reprise, finalement, Bonaparte laisse tomber ce projet colonial. Il vend, et comme vous le savez, il vend la Louisiane aux Américains contre un gros chèque.
Pour aller faire la guerre en Russie, qu'il perd.
Pour aller faire la guerre beaucoup plus tard en Russie. La guerre qu'il perd, évidemment, en 1813. Mais disons qu'il y a vraiment, chez Bonaparte, le projet d'un empire colonial bis, d'une reconstruction, et ce projet échoue. Il échoue. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en partie, la marine française est quand même très inférieure à la marine anglaise, d'une part. Mais d'autre part, parce que les esclaves de Guadeloupe... Alors, les esclaves de Guadeloupe ont quand même réussi à résister, pas longtemps, puisque comme vous le savez, si vous êtes en Guadeloupe, Delgray et Ignace se font sauter au fort de la Matouba
avec des explosifs,
voilà, et que 10% à peu près de la population noire de l'île a été exterminée par le général Richepanse.
Mm-hmm. Hein, page 104. Le bilan est atroce.
Voilà, tout à fait.
Et donc, après Trafalgar, c'est une idée. C'est impensable après Trafalgar pour Napoléon.
Non, c'est avant Trafalgar. C'est juste avant, en fait.
D'accord.
Si tu veux, ça plus Trafalgar, oui, ça a été un peu le. Ça a été un peu
le.
Voilà, ça a été un peu le coup dans le cercle.
Bon, et donc. Le 20 mai 1802, rétablissement de l'esclavage et de la traite.
Voilà. Alors, ça, c'est le rétablissement de l'esclavage et de la traite en France. Je m'explique. En réalité, la loi de 1802, elle est assez vicelarde, enfin, elle est assez cynique. Parce qu'en fait, en 1802, il y a le traité d'Amiens, entre la France et l'Angleterre. Donc, il fait provisoirement la paix. Bon, la paix va pas durer très longtemps, elle va durer 1 an et demi, mais provisoirement, il y a la paix. Et donc, l'Angleterre rend à la France la Martinique, notamment, et un certain nombre d'autres îles. Et donc, le consulat, et donc Bonaparte, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires dans lesquels l'esclavage n'a pas été aboli, puisqu'ils étaient aux mains des Anglais au moment où on abolit l'esclavage. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait aussi des colonies des Mascareignes?
Ouais.
Parce que dans les Mascareignes, les colons blancs ont réussi à empêcher l'abolition de l'esclavage en mettant les délégués du directoire dehors. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires où l'esclavage n'a pas été aboli, malgré la loi de 1794, Et donc, la loi de 1802 décide de laisser ces territoires tels qu'ils étaient, c'est-à-dire avec l'esclavage, avec la traite, etc. etc. Mmh. Mais évidemment, cette loi de 1802 annonce, sans le dire, la volonté de rétablir l'esclavage là où il a été aboli, c'est-à-dire en Guyane, en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Mmh. En Guyane et en Guadeloupe, hélas, il réussit à rétablir l'esclavage. À Saint-Domingue, il se confronte à l'armée noire et bigarrée, si j'ose dire, parce qu'en fait, il n'y a pas que des noirs, il y a des noirs, il y a des libres de couleur, il y a même des blancs dans l'armée de Toussaint Louverture. Puis, lorsque Toussaint Louverture est arrêté et envoyé, expédié au fort de Joux, où il meurt en 1803 d'une pneumonie, De Salines, qui s'était d'abord rallié à Bonaparte, déserte et embarque avec lui la quasi-totalité ou presque des armées noires et met dehors Leclerc. Enfin, Leclerc n'est pas mis dehors puisqu'il meurt de la fièvre jaune, le beau-frère de Bonaparte, et il met dehors le général Rochambeau qui l'avait remplacé.
Voilà.
Et c'est comme ça que Haïti est devenue la première république libre et noire des Antilles et du monde, soit dit en passant, en 1804.
Voilà. Et qui sombre actuellement dans l'indifférent général, dans un chaos terrible.
Ouais.
On ne le dira jamais assez. Bien. Alors.
Et une des raisons pour lesquelles Haïti est dans le chaos terrible, c'est que les pauvres Haïtiens ont été dirigés par une bourgeoisie de couleur pillarde et. Et comprador, comme on disait autrefois, oui, dans le langage marxiste. Et aussi parce que, dans les années 1820, Charles X, le roi de France, a obligé les Haïtiens à rembourser
la dette,
une indemnité due aux propriétaires d'esclaves.
Voilà.
Et les Haïti n'a fini de rembourser que dans les années 1960.
Voilà.
Haïti l'a fait, c'est ça qui est incroyable.
Et c'est ça. Alors, c'est la première crise de la dette.
C'est la première crise de la dette. Et l'argent est dans la caisse des dépôts et consignations jusqu'à présent.
En partie, oui.
En
partie aussi dans des banques américaines, puisque les Américains ont racheté des créances
françaises. Il faut le savoir.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'Haïti dépend autant des États-Unis. Et les États-Unis ont intérêt à maintenir le chaos là-bas.
Le New York Times a estimé, il y a quelques années, à au minimum 21 milliards. Ce que la France a pillé à Haïti. Alors, la fourchette est très grande, puisque l'article du New York Times disait entre 21 et 100 milliards. Voilà. Et donc, quand Hollande est arrivé, François Hollande, pardon, est arrivé à Haïti pour leur donner des bonnes paroles, les Haïtiens ont manifesté en disant pas de morale, des sous. Et effectivement, mais pour l'instant, les sous, ils n'en ont pas vu la couleur, les pauvres Haïtiens.
Voilà. Bien. Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale grâce à Jean-Michel et nous allons aborder le lien colonial.
« pas d'odeur, mais la prison en a une. Tu manges cher, tu douilles cher, pour toutes tes lacunes. Y'a ceux qui sont le passage, et ceux qu'on allume. Combien de fois ma tête se fait la belle, au clair de lune. Toujours rappelé par la pesanteur, comme une enclume. J'ai déjà la tête dehors, tous mes sens se rallument. J'serai plus sous peu dans ce caisson, dans cette putain de bulle. J'compterai plus les jours, les premières heures sont sans calcul. Ma vie sera ailleurs, comme tous ceux qui sont ici. Les heures d'attente, les bruits de clés, sa mère c'est fini. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Dehors, mais la tête encore dedans. J'ai les lobes constipés, encore pour quelques temps. Tout paraît aller vite et l'euphorie me porte. Mes têtes cramées sont au garde-à-vue, y'a toute ma cohorte. On parle comme si j'étais parti, y'a pas 10 minutes. Ça speed, ça jazz, ils me disent qu'ils m'ont amené un truc. Me v'là déjà la tétine dans le bec, c'est un pec. C'est de la frappe qui fait gonfler mes pecs. Il est 9h du mat, j'ai déjà cassé tous mes sermons. Mais c'est aussi comme ça que je fonctionne. Jamais clean trop longtemps, et puis je sais ce qui m'attend. J'ai du taf et du taf, tant de mailles pour une distribution générale de bar. Lyrica, alors mon fer fond la langue et les amygdales. Ça y est, je réouvre le bouclard, les MC détalent. Apeuré par mon souffle, car ça sent la fin de partie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Prête à faire mon entrée, y'a la foule qui crépite. Mais comme une bête à sang froid, quand je partirai on sera quitte. Mais juste avant je suis électrique et le temps se suspend. J'ai l'impression qu'il y a l'univers entier qui m'attend. Et comme un squad je ne peux aller que de l'avant. Poussé véhiculé par tous les vents. J'aime ma vie relance car le hip-hop est ma guerre. Les méros gardables, tendu, toujours prêt à croiser le fer. J'ai le hip-hop belliqueux, comme du diable la queue. J'suis bad, bad, quand la France est en feu. MC va te peser, t'es pas dans ta catégorie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Marc Bélissa pour parler de la Révolution française et des colonies. Samuel.
Et durant la pause, je disais qu'il y avait une question qui me taraudait parce que Marc nous a dit au début de la deuxième partie de l'émission que il y avait des grands noms comme ça de l'aristocratie française ou en tout cas de la bourgeoisie ou peu importe, comme Lafayette, etc., qui étaient pour l'abolition de l'esclavage ou
de la traite.
De la traite. Et moi, je me demandais du coup comment ça se fait, parce qu'a priori, ils n'auraient pas d'intérêt. Ou alors, justement, est-ce qu'ils ont au contraire un intérêt à réagencer le contrat racial, c'est-à-dire à le transformer d'une manière qui soit plus pérenne et qui leur permette de continuer à garder ce pouvoir qu'ils ont sur les colonies? Ou un pouvoir économique qu'ils ont d'un point de vue commercial, en tout cas.
Ouais, c'est une bonne question, mais je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire que quelqu'un comme Lafayette, et c'est quelqu'un qui est opposé à l'esclavage, malgré le fait qu'il possède des esclaves. En Guyane, il a acheté un domaine où il a essayé de faire d'abolir progressivement l'esclavage sur ses plantations. Okay. Et évidemment, tu peux pas abolir l'esclavage sur un coin et pas l'abolir à côté. C'est juste pas possible. Voilà. Et donc, que ces gens-là aient eu des convictions humanitaires n'empêche pas, par ailleurs, qu'ils aient voulu, et c'est le cas par exemple de quelqu'un comme Mirabeau, qui n'a aucun intérêt dans les colonies personnelles, je veux dire. Son père avait écrit sur les colonies le marquis de Mirabeau, oui. Mais Mirabeau, le comte, le révolutionnaire de 1789, a pas d'intérêt particulier pour les colonies. Mais humanitairement, c'est quelqu'un qui défend l'abolition de la traite et par ailleurs considère que le meilleur moyen de garder les colonies et qu'elles servent à la prospérité de tout le monde, c'est de transformer, alors ce que tu appelles le contrat racial, le terme, je ne sais pas s'il est adapté, peu importe, mais disons qu'il souhaite transformer les rapports raciaux et sociaux pour conserver une forme de domination coloniale, c'est clair. Des gens comme ceux que j'appelais tout à l'heure les physiocrates, ou la société des Aminés Noirs, ne sont pas des anticolonialistes. Ce sont des gens qui veulent conserver les colonies et les réformer. Ce sont des réformateurs coloniaux. Alors certains parmi eux sont un peu plus conséquents et donc vont se battre. Par exemple, Brissot, donc le dirigeant des Girondins, est quelqu'un qui va continuer à se battre pour l'abolition de l'esclavage. Même si par ailleurs, quand va y avoir la révolte à Saint-Domingue, il va appeler à rétablir l'ordre.
D'accord.
Et voilà, donc parce que il est homme d'État, etc. Puis après, par la suite, il va cesser de s'occuper de ça parce qu'il aura bien d'autres choses. Et puis de toute façon, il finira sur la guillotine.
Oui.
Donc il se passera d'autres choses. Mais je veux dire, faut pas trop opposer. Il faut pas simplifier exagérément. Tu peux être pour l'amélioration de la vie des esclaves et considérer qu'on ne peut pas se passer de l'esclavage. Tu peux être... Tu as des réformateurs comme ça de l'esclavage en Amérique du Nord qui expliquent qu'il faut permettre aux Noirs de se marier et d'avoir des familles. Il ne faut pas séparer les familles. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien du point de vue chrétien, mais en même temps, ce n'est pas bien du point de vue de... économique, parce que c'est mieux de reproduire la force de travail plutôt que d'aller acheter des esclaves en Afrique. Quoi. Ouais. Bon, alors nous, deux siècles après, on peut dire ah, tu bon voilà, mais je suis pas sûr que les contemporains vivaient cette contradiction.
Non, je pense à l'exemple de Olympe de Gouges.
Oui, par exemple.
Alors, les systèmes de domination sont pas d'autant plus puissants quand on n'y voit pas de contradiction. Ça apporter ces propres éléments qui nous apparaissent paradoxales.
Ouais.
Mais eux, si à leur époque ça leur apparaît pas paradoxal, est-ce que c'est pas d'autant plus?
Je sais pas si ça leur apparaît pas paradoxal. Écoute, franchement, faudrait.
C'est une vraie question.
Non, mais c'est une très bonne question à laquelle je peux pas répondre. Je peux te prendre des exemples.
Ouais.
Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, très grand propriétaire d'esclaves, très grand propriétaire d'esclaves, a fait des enfants à sa maîtresse Sally. Il a émancipé une partie d'entre eux, pas tous. Et il était profondément persuadé que l'esclavage, c'était mauvais et qu'il fallait en finir. Et pourtant, il a rien fait pour ça.
Non.
Sans doute parce que il considérait qu'on pouvait pas, ou parce que il pensait que c'était pas le moment. Après, deux siècles après, on peut dire putain, ah là là, quel salaud, il a pas. Mais bon, c'est facile pour nous deux siècles après. Donc, je veux dire, en tant qu'historien, je m'intéresse à ce que pensent et ce que disent les acteurs. Et ce qu'ils font aussi, voilà. Et donc,
ce qu'ils font, surtout.
Ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, c'est pas séparé.
Ouais.
C'est
l'interaction entre les deux.
C'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. C'est-à-dire que tu peux être, quelqu'un comme Henri Grégoire et quelqu'un qui est catholique, qui est prêtre, qui a jamais renié son catholicisme et l'importance du catholicisme, etc., etc. Dans le même temps, il est opposé à l'esclavage et dès 1789, il explique que il n'est pas bien persuadé que le lien colonial entre la France et les colonies est bien légitime. Voilà. Donc, tu vois, ce sont des personnages complexes. Personnages complexes. Et justement, sur cette histoire de lien colonial, je voudrais en dire un mot. Puisque,
s'il te plaît.
Voilà. En fait, les colonies du premier empire colonial, c'est pas les colonies du deuxième empire colonial. C'est-à-dire que à partir de l'Algérie, ensuite la conquête de l'Afrique, enfin d'une partie de l'Afrique,
l'Indochine,
etc., etc. Ce sont des endroits où il y a des indigènes entre guillemets, puisque c'est le terme qui est utilisé à l'époque. Dans le cas du premier empire colonial, il n'y a pas d'indigènes. Enfin, en tout cas au XVIIIe siècle, il y en a pas parce qu'ils sont tous morts.
Oui.
C'est-à-dire que quand les blancs, enfin d'une certaine manière, quand les blancs arrivent, le choc microbien, etc.,
voilà,
a quasiment tué tous les Indiens. Donc finalement,
les guerres coloniales.
Et les guerres coloniales. Finalement, les colons dans ces endroits-là sont des blancs européens, alors en général souvent de l'ouest de la France, mais pas que, il y en a qui viennent d'ailleurs, et des esclaves qui ont été transportés. Si tu veux, donc il n'y a pas de, d'indigènes à gouverner. Et donc, entre guillemets, les indigènes qu'on gouverne, c'est les esclaves qu'on a amenés, mais qui ne sont pas plus indigènes qu'autre chose, puisque eux, ils viennent d'Afrique. Ils ne sont pas nés à cet endroit-là. Et donc, et en général, vu le taux de rotation et l'espérance de vie d'un esclave qui est 10 ans en moyenne, ils n'y restent pas très longtemps.
Non.
Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les colons se sont pensés non pas comme des Français qui devraient gouverner des indigènes, mais ils se sont pensés comme des Américains, comme des créoles, parce qu'ils se disent, ils s'appellent le même créole, les Blancs, hein, comme des Blancs qui sont des sujets du roi de France, ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas des Français. Ils sont à part. Et tout ce qu'ils vont chercher pendant, déjà à la fin, enfin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a tout un débat pour savoir si les colonies sont des provinces françaises.
Ce
qui n'est pas le cas, puisque la loi française, enfin la loi de, plus exactement la loi des parlements, par exemple la loi de Paris, ce qu'on appelle la coutume de Paris, s'applique aux colonies, mais les colonies ne sont pas des provinces françaises. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'au point de départ, les colons n'ont pas pu envoyer
De représentants.
De représentants en 1789. Il a fallu qu'ils se bataillent pour avoir des représentants, parce qu'ils ne sont pas des provinces françaises. Le lien entre la France et la colonie n'est pas encore pensé, ou en tout cas pas complètement, comme un lien entre une métropole et des colonies. Mais c'est pensé comme un lien avec le roi. C'est le roi qui est propriétaire des colonies. C'est son domaine personnel, à lui.
Donc, D'ailleurs, Louis XIV a même vendu sa vaisselle pour conserver les Antilles.
Je ne connaissais pas cette anecdote-là. Mais écoute, je vérifierai. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les colons estiment qu'ils ont un lien avec le roi de France, mais pas avec la France. Et ils ne se pensent pas comme les éléments d'un empire colonial. Ils se pensent comme des Américains qui ont une relation particulière avec le roi de France. Et donc, ils vont essayer, un certain nombre d'entre eux, d'obtenir le statut de province. Ils vont discuter pour essayer d'obtenir le statut de province. Et d'une certaine manière, ils l'obtiennent en 1789, quand l'Assemblée constituante refuse de distinguer les colonies quant à l'administration locale. C'est-à-dire que j'explique tout ça dans le bouquin, ça sera développé, mais on crée dans les colonies des assemblées coloniales. Et ces assemblées coloniales sont censées représenter la colonie de la même manière qu'en France, il y a des assemblées départementales, des assemblées municipales, etc. etc. Et donc ces assemblées coloniales, en fait, sont quasiment indépendantistes. Ce sont eux les indépendantistes. C'est-à-dire que l'Assemblée du Cap va dire que le seul lien qu'elle a avec la France, c'est le lien avec le roi de France. Louis XVI, qui est encore à l'époque le roi des Français. Donc, l'idée d'indépendance nationale est une idée qui n'a pas beaucoup de sens dans la période dont je parle. Elle n'a de sens, cette idée d'indépendance nationale, qu'au moment où à Haïti, la politique de Bonaparte oblige les dirigeants haïtiens à rompre avec la France. Voilà. Mais ils ne veulent pas rompre avec la France. Au départ, Toussaint Louverture veut rester dans le cadre de ce qu'il appelle l'Empire français. Pourquoi ? Parce que la France est la seule puissance coloniale qui a aboli l'esclavage à l'époque. Et donc, son intérêt à lui, et l'intérêt des Haïtiens, c'est que Haïti, que Saint-Domingue, pardon, reste dans le giron français, mais avec une forme d'autonomie. Une très large autonomie. Et donc, le débat à l'époque, c'est pas colonialisme, indépendance. Le débat, c'est colonialisme, autonomie. Et colonialisme, relation égalitaire. Relation égalitaire, c'est très important. C'est-à-dire, ce que veulent ce qu'on appellerait, nous, des anticolonialistes, mais le terme est un peu anachronique. Disons, ce que veulent ceux qui rejettent l'idée de domination coloniale, ils veulent des relations avec les colonies, mais des relations qui soient égalitaires, qui soit véritablement républicaine au sens propre du terme, la res publica. Par exemple, quand Paoli, l'ancien dirigeant de la révolution corse, passe à Paris, en 1789, parce que l'île, justement, a été intégrée, parce qu'elle était une colonie, et puis elle est intégrée dans l'Empire français, comme on dit, c'est un décret de novembre 1789. Paoli, qui était réfugié en Angleterre, passe par Paris. Il est reçu au club des Jacobins. Et ce jour-là, c'est Robespierre qui est le président, qui est le président tous les 15 jours. Et Robespierre salue Paoli en disant la Corse est devenue, alors elle fait partie de l'Empire français, mais il définit cette relation entre la France et la Corse comme une relation d'égalité entre deux peuples. Pas une absorption, une intégration de la Corse comme étant français. On a une alliance égalité entre deux peuples. Quand les délégués de Saint-Domingue arrivent la veille de l'abolition de l'esclavage en février 1994, il prononce un discours dans lequel il parle de l'alliance entre les deux nouveaux peuples, le peuple de Saint-Domingue et le peuple français. C'est-à-dire qu'on pense ce lien non plus comme un lien de domination coloniale d'une métropole ou d'un roi sur les colonies, mais comme une alliance fédérale ou fédérative, parce que le terme fédératif est très important à l'époque, ça ne renvoie pas à un État fédéral comme aux États-Unis, ça renvoie à autre chose, une alliance fédérative égalitaire. Et ça, c'est important à comprendre, que ce lien colonial, il ne ressemble pas à ce qui sera par la suite au XIXe siècle, c'est autre chose. Hein? Donc, si on cherche de l'anticolonialisme en cherchant des gens qui vont dire il faut une indépendance des colonies, on ne va pas les trouver. Non. On ne va pas les trouver, simplement parce que ce n'est pas les termes du débat à l'époque. Non. Les termes du débat, c'est domination ou égalité. Et réciprocité. Puisque la réciprocité de la liberté, c'est l'égalité.
La guerre d'indépendance des États-Unis, elle n'a pas influencé justement ces débats-là ?
Absolument.
Ah, il le montre dans... On n'a pas le temps d'aborder tous les chapitres, mais l'interférence avec les colonies et les flux, les débats d'idées et la révolution et aussi les États-Unis, tout est expliqué
dans le livre.
Progressivement, surtout le lien colonial.
Oui,
je te recommande.
Oui, parce qu'évidemment, l'apparition d'une puissance
nouvelle,
décolonisée, que sont les Américains du Nord,
enfin les États-Unis,
donnent des idées aux colons. Évidemment.
Voilà.
Et fou la trouille au gouvernement royal, évidemment.
Ben voilà, tout à fait. Alors, je voudrais que tu viennes, on a juste quelques minutes, sur ta conclusion, notamment d'un certain Emmanuel Macron.
Emmanuel M.
Parlons de Bonaparte, ça vaut son détour.
Oui, en fait, il a fait une espèce de gloubi-boulga historique. Je ne sais pas très bien qui lui a écrit son discours, mais c'était un peu... est-ce qu'il a mal lu le discours ?
C'était indigeste.
Est-ce qu'il a mal lu le discours ou je ne sais pas trop. Alors, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous tapez Emmanuel Macron, Toussaint l'ouverture.
Voilà.
Et alors, ça vaut vraiment le détour, parce que, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que ça se passait au moment des manifestations pour la réforme des retraites. Macron fait ce discours dans le Fort de Joux, dans la cellule où est mort Toussaint l'ouverture, qui est devenu un musée maintenant. Mmh. Et donc, grosso modo, la date, c'était avril, la date de commémoration, c'était la commémoration de la deuxième abolition, celle de 1848. Et donc, il prend la date de la deuxième abolition pour parler de Toussaint l'ouverture. Déjà, il y a un petit problème historique.
Tout à fait.
C'est qu'on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas du tout dans le même... Et comme on l'a dit tout à l'heure, en 1994, c'est une abolition sans indemnité, et pas celle de 1948, soit dit en passant. Mais en plus, dans son discours, Macron fait dire à Toussaint l'ouverture des choses qui, en fait, sont de Bonaparte. Et donc, c'est assez bizarre, parce qu'il fait dire à Toussaint l'ouverture que le règne de la Révolution, enfin, c'est la fameuse proclamation de Bonaparte au lendemain de Brumaire, où il dit « La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est terminée. » Et grosso modo, il fait dire à Toussaint l'ouverture que la Révolution est terminée. Or, évidemment, c'est absurde, puisqu'évidemment, Toussaint l'ouverture, d'une part, n'a jamais dit ça, et d'autre part, n'aurait jamais même pensé ça, puisque pour lui, c'était pas terminé, puisqu'il fallait absolument maintenir l'abolition de l'esclavage à Haïti. Et donc, on a eu une espèce de clash historique et historiographique assez bizarre. Et alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, évidemment, mais si vous regardez la vidéo, vous le verrez, soit vous crierez, soit vous vous abuserez, comme moi, soit vous ricanez, soit vous arrachez les cheveux, enfin peu importe, vous verrez bien. Il répète 9 fois le mot « ordre républicain ». Déjà, quand il dit ordre républicain, on n'a pas envie de l'être. Donc, c'est un peu... Bon, sauf si, évidemment, on pense que la République, c'est autre chose que l'ordre. Voilà. Et puis, il fait tout un truc sur... il ne suffit pas d'être insoumis.
Aïe.
Et il le répète plusieurs fois. Alors, grosso modo, ce qu'il veut... Bon, dans le contexte, c'était une ficelle tellement énorme que, évidemment, on était obligé de comprendre ce qu'il était en train de dire. Comme une pique contre Mélenchon, contre... voilà. Donc, on se demande bien ce que ça venait faire là. Mais l'idée, c'était grosso modo que les insoumis et en fait, sous ce nom, tous ceux qui manifestaient contre les retraites, en fait, en réalité, c'était grosso modo des partisans du chaos et que ceux qui défendaient les retraites, enfin la fameuse contre-réforme des retraites, c'était eux l'ordre républicain. Mmh. Voilà. Et donc c'est assez marrant de voir cette espèce de télescopage. Bizarre, où Macron fait de Toussaint Louverture le pendant de Napoléon, en fait.
Oui.
Alors que, je sais pas...
C'est un contresens historique.
Ah ben, c'est, oui, c'est un contresens total. Je sais pas si...
Moi,
je
sans suis, oublier que...
Je suis pas un fan du point Godwin, mais on pourrait dire... Je sais pas...
Oui.
On va trouver autre chose, on va dire...
C'est clair.
Bon, on peut trouver d'autres oppositions historiques fondamentales.
C'est clair. Sans oublier qu'il y a une femme... et pas n'importe laquelle, une réalisatrice de grand talent. Je suis allée voir son film, Autopsie d'une chute,
oui.
qui a donné son discours lorsqu'elle a eu la Palme d'Or pour soutenir la réforme des retraites, pour soutenir les opposants à la réforme des retraites, ouais. Qui n'a jamais été félicitée par Macron et qui actuellement est dans 5 catégories nominée pour les Oscars.
Mmh.
Et qui a eu une multitude de prix, mais à part ça, tout va bien.
Mais oui, tout va bien.
Et puis Macron, c'est aussi celui qui avait tenté de réhabiliter Pétain, quand même. Avec l'histoire, il est fâché un petit peu.
Oui, oui, il a... Je sais pas qui... Vous savez peut-être ça. Je sais pas qui est-ce qui lui écrit ce discours, parce que c'est pas lui ce qui les écrit, ça c'est clair. Mais voilà.
Alors...
Mais hier, je m'excuse.
Oui.
Vas-y, François.
Je vais faire très vite. Hein. Oui. Hier, je discutais avec un monsieur que j'ai souvent invité à ce micro. C'est Roger Langlais. Et il me disait que... il savait pas comment allait se terminer cette deuxième mandature, mais qu'il avait quelque chose de Bonaparte.
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, il se rêve avec un chapeau sur la tête. Ouais.
Mais...
Je ne sais pas si c'est vrai.
Alors, Marc, oui. Samuel, vous allez finir par une pointe sur l'actualité et la Palestine.
Oui, je voulais revenir à un temps sur l'actualité parce que c'est vrai que ça fait moins la une des journaux depuis un certain temps. Ça finit par se tasser, bon, comme à peu près tout dans l'actualité médiatique. Mais oui, le nettoyage ethnique de la bande de Gaza continue. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la colonialité telle qu'elle a existé dans le colonialisme continue de régir aujourd'hui encore les rapports de pouvoir dans le monde contemporain actuel. Je pense aussi que la loi immigration, par ailleurs, s'inscrit dans cette continuité-là. Et oui, on a récemment dépassé les 100 jours.
Et 30 000 morts.
Et 30 000 morts. Dont plus de 5 000 enfants.
Au moins.
Voilà, au moins 30 000 morts, dont au moins plus de 5 000 enfants. Voilà, des hôpitaux qui sont bombardés, toujours. Je pense que c'est important, quand on a l'occasion de le faire, et qu'on a un espace d'expression publique, en tout cas, de rappeler que c'est un... Voilà.
C'est fondamentaux coloniaux.
Voilà, et que c'est encore en cours aujourd'hui, et qu'on souhaite que ça s'arrête, mais...
Ouais. Alors, nous avons fait une émission sur la Palestine, il y a un mois.
Avec Monira.
Avec Monira.
J'embrasse si elle nous écoute.
Voilà, elle est en ligne sur le site du groupe Louise Michel et sur le site de la radio. Donc, vous pouvez l'écouter ou la réécouter. Nous remercions Marc.
Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie tous.
Ah non, mais merci infiniment.
Non, mais je vous remercie par avance parce que vous allez acheter le bouquin.
Ah, oui, tout à fait.
Non, je plaisante.
Ah, mais je l'ai acheté et je ne le regrette pas. Et je demande...
La schizophrénie idéologique.
Non, voilà. Non.
Vous faites comme vous voulez.
Oui, et je souhaiterais que vraiment ceux, surtout dans les Antilles, et qui se battent et qui ont un problème colonial... qui ont compris que c'était un problème colonial qui perdure au XXIe siècle, lisent cette histoire. Ils auront des armes pour mieux combattre. C'est pour ça que j'ai fait cette émission. Et en plus, j'ai adoré ce livre. Merci,
merci
Marc.
Merci beaucoup.
Et merci Mariama.
Merci Mariama. Merci aux auditeurs.
Merci. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission.
Merci à...
Et d'ici là, portez-vous bien. Merci,
merci
à Jean-Mi.
La technique, ouais.
Voilà, Jean-Michel.
Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rajah de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la pubin. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Hé, 50 kilos de tête. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, un jour. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'envie, ça va pas.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale qu'ils ont la vie, non ? Bah, il sert à rien de foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille bulle.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est que t'as des phrases. Enfin, moi, je suis. Ça, c'est une métaphore.
C'est une manie que tu as de cracher partout devant la race. Excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci Ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vois les dingues, je les soigne.
Vous allez faire une ordonnance. Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, pour le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je vais pas me remettre à l'écran sur orbite, ça prend des tours.
Tu marines dans le pinard comme des scuds dans le bout.
On sent plus de globule, c'est du 11,5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins,
ce
besoin de faire des phrases.
On te sauve ou je te sauve, et on a pris des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
Une alerte à la population est en cours.
Elle est morte, la
maîtresse. Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!
Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible blanche.